VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, le monde aujourd'hui, Abdourahmane Dia pour vous présenter cette édition de 17h30 temps universel. On est vendredi 2 juin 2017 au sommaire. 11 morts au moins dans un double attentat suicide dans l'extrême nord du Cameroun. En République démocratique du Congo, mouvement d'humeur des médecins dans le Nord Kivu. Un vaccin contaminé fait des victimes au Soudan du Sud. 15 enfants sont décédés et les autorités mettent en cause le non-respect des normes de l'OMS. Les réactions se poursuivent après l'annonce du retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. La Chine et l'Union européenne n'ont pas réussi à s'entendre sur le climat à cause de divergences sur le commerce. Et ce débat sur le climat ne laisse pas les Africains indifférents.
Avec le Fonds vert pour le climat, nous avions beaucoup d'espoir. On est arrivé à 1,50-50 pour l'adaptation et l'atténuation, ce qui était une première un peu plus satisfaisante que ce qu'on a vu jusqu'à présent.
Réaction à suivre dans la partie magazine de cette émission et ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Le Cameroun frappé par un nouvel attentat, 11 morts et 30 blessés dans une attaque kamikaze dans l'extrême nord du pays. L'attentat s'est produit ce vendredi matin dans un camp de réfugiés à l'entrée de la ville de Kolofata dans l'extrême nord du pays. Donc, c'est le troisième attentat suicide en moins de 2 mois. Plus de précisions avec notre correspondant au Cameroun, Jules Emmanuel Ta.
Les kamikazes ont déjoué l'attention des membres du comité de vigilance en se faisant passer pour les réfugiés du camp de déplacés de Kolofata à la recherche du petit déjeuner en cette période du Ramadan. La suite a été fatale. Babila Aroua, préfet du département du Mayo-Sava, joint au téléphone.
Deux kamikazes. Vous voyez de l'autre côté de la frontière, infiltrés dans un camp de déplacés internes, là, aux environs de 5-30 minutes. Le bilan fait état de 8 morts, dont les deux kamikazes et 30 blessés.
Un bilan qui va s'alourdir en mi-journée, passant de 8 à 11 morts. Les blessés, 30 au total, sont des civils résidents du camp de réfugiés de Kolofata et prise en charge, selon le préfet de Mayo-Sava.
Il y a 10 dont les blessures légères sont à Kolofata, 10 des cas moyens au niveau de Mora et 10 des cas graves évacués sur Mara.
Le gouverneur de la région de l'extrême nord a exhorté les responsables de mosquées à plus de vigilance en ce mois de Ramadan. Yaoundé, Emmanuel Jultap, VOA Afrique.
Toujours au Cameroun, le corps sans vie de Mgr Jean-Marie Benoît Bala, évêque de Bafia, a été retrouvé dans le centre du pays par un pêcheur. L'évêque était porté disparu depuis mardi. Sa voiture a été retrouvée mercredi sur le pont d'Ebebda à 80 km de Yaoundé. À l'intérieur du véhicule, un bout de papier a été retrouvé dans lequel il est écrit « Je suis dans l'eau ». Le corps a été transféré à Yaoundé. Dans l'est de la République démocratique du Congo, les médecins de la province du Nord Kivu ont décrété une grève de 5 jours pour dénoncer l'assassinat d'un de leurs collègues dans cette province troublée. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
La grève sans service minimum déclenchée ce vendredi dans tous les hôpitaux du Nord Kivu va durer 5 jours. Le syndicat des médecins de cette province proteste contre l'assassinat du docteur Deo Chiza dans le Masisi. Lundi, des hommes armés non identifiés ont fait irruption à l'hôpital de Mwezo avant d'ouvrir le feu et ont blessé 6 personnes. Le docteur Chiza, chef du bloc opératoire, a été enlevé et son corps a été retrouvé le lendemain à 1 kilomètre plus loin. Âgé de 39 ans, il travaillait depuis 7 ans à l'hôpital de Mwezo, au nord-ouest de Goma, la capitale du Nord Kivu. L'est de la RDC est déchiré depuis plus de 20 ans par des rébellions à répétition. Des dizaines de milices s'y affrontent régulièrement. Les attaques, enlèvements et viols sont récurrents dans cette région.
Et puis les autorités congolaises ont annoncé aujourd'hui avoir maîtrisé la propagation de l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola, 3 semaines après sa déclaration dans une zone enclavée du nord-est du pays. Kinshasa avait autorisé des tests de vaccins contre le virus d'Ebola, mais pour différentes raisons, notamment logistiques, les vaccins ne sont toujours pas arrivés en RDC à ce jour, selon le ministre de la Santé Oli Ilunga. Un cafouillage survenu lors d'une séance de vaccination contre la rougeole tenue au Soudan du Sud a causé la mort de 15 enfants, tous âgés de moins de 5 ans. Le gouvernement impute la responsabilité du désastre à une erreur humaine. Les explications de Salwa Diafari.
Les enfants en question sont morts dans le petit village rural de Capueta au début du mois de mai. Une seule seringue aurait été utilisée pour vacciner tous les enfants pendant la campagne de 4 jours et le vaccin aurait été entreposé sans réfrigération. Des enfants âgés d'à peine 12 ans auraient été employés pour administrer le vaccin. Un communiqué commun de l'UNICEF et de l'Organisation mondiale de la santé indique que l'équipe responsable de la vaccination n'était ni qualifiée ni entraînée. La campagne de vaccination cible plus de 2 millions d'enfants à travers le pays. Environ 300 enfants étaient visés dans la région où la catastrophe s'est produite. 32 autres enfants ont été victimes de fièvre, de vomissements et de diarrhée, selon le même communiqué.
L'ANC, le parti au pouvoir en Afrique du Sud, souhaite l'ouverture d'une enquête sur ce qu'il appelle l'affaire des emails Gupta. Hier, la presse sud-africaine a révélé avoir eu accès à des centaines de milliers d'emails qui démontreraient l'ampleur de l'emprise de la riche famille indienne, les Gupta, sur l'appareil d'État sud-africain. Le roi du Maroc n'ira pas au Libéria ce week-end pour participer au sommet de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, en raison de la controverse liée à la présence du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Mohamed VI avait prévu de se rendre les 3 et 4 juin à Monrovia à l'occasion du 51e sommet de la CEDEAO qui devrait notamment examiner la candidature du Maroc pour adhérer à cette organisation régionale. Le roi souhaite que sa première présence en sommet de la CEDEAO n'intervienne pas dans un contexte de tension et de controverse. Le souverain marocain tient à éviter tout amalgame ou confusion, indique un communiqué du ministère marocain des Affaires étrangères. En Algérie, deux islamistes présumés ont été abattus ce vendredi par l'armée dans la préfecture de Blida, au sud d'Alger. 4 gendarmes avaient été légèrement blessés par balle mercredi dans cette même localité. Cette vaste plaine agricole dont Blida est la plus grande ville fut l'épicentre de la guerre civile qui a ravagé l'Algérie entre 1992 et 2002 et en fief des groupes islamistes armés qui combattaient les forces de sécurité.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité hors du continent, la Chine et l'Union européenne ont échoué à publier une déclaration conjointe sur le climat à l'issue de leur sommet à Bruxelles aujourd'hui, en raison notamment de divergences persistantes sur les questions commerciales. Jacques Aristide pour les précisions.
Pékin et Bruxelles ont promis de s'unir pour lutter contre le changement climatique au lendemain du retrait américain de l'accord de Paris sur le climat. La Chine et l'UE s'engagent ainsi à réduire l'utilisation de combustibles fossiles, développer les technologies vertes et à contribuer au financement d'un fonds annuel de 100 milliards de dollars d'ici à 2020 pour aider les pays les plus pauvres à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. En revanche, elles ne sont pas parvenues à s'entendre sur d'autres thèmes, notamment le libre-échange et les mesures requises pour réduire la surproduction mondiale d'acier. Les Européens refusent d'accorder le statut d'économie de marché à Pékin qu'ils accusent de dumping. La France, l'Allemagne et l'Italie ont également pensé autoriser l'UE à bloquer les investissements chinois en Europe, surtout parce que les entreprises européennes se voient refuser un accès similaire en Chine.
Le Vatican appelle chrétiens et musulmans à défendre l'environnement et la planète dans un message adressé au monde islamique à l'occasion du Ramadan. Personne, aucune nation ou peuple ne peut imposer exclusivement sa compréhension de la planète, affirmait ce texte rendu public au lendemain de l'annonce par le président américain Donald Trump de sa décision de quitter l'accord de Paris sur le climat. Aux Philippines, au moins 37 personnes sont mortes par suffocation lors de l'attaque d'un casino à Manille par un homme qui a incendié l'établissement avant de se suicider. Les autorités écartent la piste terroriste, décrivant l'auteur comme un cambrioleur souffrant de troubles psychologiques. Une cinquantaine d'autres ont été blessés, notamment dans une bousculade qui s'est produite quand les clients, pris de panique, ont tenté de s'enfuir. En Israël, quelques centaines de jeunes ont participé dans le centre de Jérusalem à une marche pour défendre les droits des femmes. La marche, encadrée par la police, s'est déroulée sans incident. Ces personnes ont marché le long de la rue Yafo et à proximité de quartiers ultra-orthodoxes juifs où les femmes sont tenues de porter des vêtements longs pour ne rien laisser voir de leur corps. Mais les manifestantes ont tenu à défier ce code vestimentaire.
Et puis une université afghane appelle les talibans à libérer un Américain et un Australien enlevés l'an dernier. Ces professeurs de l'université américaine de Kaboul enlevés en août étaient apparus pour la première fois en janvier dans une vidéo des talibans. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle tout de suite dans la Minute Éco présentée ce soir par Claire Morin-Chebourg.
En Mauritanie, l'IRA, l'ONG anti-esclavagiste, se mobilise contre la spoliation des terres des communautés villageoises. Dans un communiqué, l'organisation dénonce une tentative de spoliation foncière des communautés villageoises de la vallée du fleuve Sénégal. Dans le cadre d'un projet d'agro-industrie, le gouverneur de la région de Bogué, Abderrahmad Ould Mahfoud Ould Khatri, a attribué par décret des terres à des acteurs de l'agrobusiness arabo-berbère. L'IRA affirme que cela a été fait sans concertation avec les populations vivant sur ces terres. La coopération suisse au Burkina Faso va accorder 2 milliards de francs CFA au pays. L'accord de financement a été signé hier par Rosine Koulibaly, la ministre de l'économie, et Bernard Dubois, le directeur de la coopération suisse. Des fonds destinés à la valorisation des produits forestiers et à l'amélioration des revenus des ménages ruraux et périurbains. Bonne nouvelle pour les internautes du Togo, deux nouveaux fournisseurs d'accès à Internet ont été autorisés par le ministère de l'économie numérique. Deux licences ont été accordées à la société Teolis SA et au groupe Vivendi Africa Togo.
À présent, la page des sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
On démarre par la troisième journée des phases de poule de Ligue des Champions qui se dispute ce week-end.
Au programme dès ce vendredi, l'Espérance de Tunis qui se déplace sur le terrain des Mamelodi Sundowns, tenant du titre. Le Zamalek qui accueille au Caire l'USM Alger. Un peu plus tôt, Al Ahly de Tripoli s'est imposé 4-2 au Zimbabwe chez Caps United. Demain, on suivra la rencontre entre le Zanaco de Zambie et le Coton Sport de Garoua, ainsi que Ferroviaro de Beira contre Al Merreh. L'étoile sportive du Sahel contre Al Hilal du Soudan. Mais dimanche, l'AS Vita Club en déplacement en Éthiopie chez Saint-Georges et puis le Al Ahly d'Égypte qui accueille le WAC Casablanca. 0-0 ce soir entre Mbaban Swallows, le club du Swaziland et le MC Alger. À suivre également le FUS de Rabat contre le club africain. Demain, le CF Mounana au Gabon accueille le Oroya de Guinée, Smouha d'Égypte contre Hilal El Obied du Soudan. Et puis le KCCA d'Ouganda contre Rivers United du Nigeria. Dimanche, le tout-puissant Mazembe contre Supersport United d'Afrique du Sud. Le Zesco United de Zambie contre le Recreativo Libolo d'Angola. Et puis Platinum Stars, autre club sud-africain, en déplacement chez le CS Sfaxia.
Et demain, la grande finale en Europe entre le Real Madrid et la Juventus de Turin.
Zinedine Zidane a marqué la Ligue des Champions comme joueur. Il peut entrer dans sa légende comme entraîneur en cas de victoire du Real Madrid à Cardiff. Personne depuis Arrigo Sacchi qui, du Milan AC, n'a conservé le titre suprême. Mais la vieille dame de Massimiliano Allegri dispose peut-être de la meilleure défense du monde. La Juve peut aussi s'appuyer sur son gardien de but, Gianluigi Buffon, toujours étincelant malgré ses 39 ans. Celui-ci semble être le seul en position de priver Cristiano Ronaldo d'un cinquième ballon d'or.
Nadal expéditif à Roland-Garros.
Rafael Nadal a remporté la victoire la plus écrasante de sa carrière à Roland-Garros. C'est du tennis. Le score 6-0, 6-1, 6-0 contre le géorgien Nicolas Basilashvili, 63e joueur mondial. L'Espagnol en quête de son 10e titre à Paris n'a passé qu'une heure 30 minutes de jeu sur le court pour remporter sa 3e victoire en 3-7 depuis le début du tournoi. Le numéro 4 mondial, grand favori à Paris, affrontera dimanche en 8e de finale son compatriote Roberto Bautista, 18e joueur mondial.
Et le grand rendez-vous, c'était la nuit dernière avec le premier match de la grande finale entre Cleveland et Golden State.
Golden State n'a laissé aucune chance aux champions en titre Cleveland, rapidement submergé par le duo Kevin Durant-Stephen Curry. Les Warriors qui s'imposent 113-91 dans ce premier match de la finale 2017. 5 ans après sa seule finale NBA qu'il avait terminée en larmes sous le maillot d'Oklahoma City, Durant n'a pas manqué son rendez-vous et a donné d'entrée le ton avec pas moins de 6 spectaculaires slam dunks.
Merci Nico.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour au lendemain de la décision du président américain Donald Trump de sortir des accords de Paris. Seni Nafo, le négociateur climat du groupe Afrique aux dernières COP et porte-parole de la cause écologique du Mali, a donné son point de vue depuis Bamako au micro d'Ekiabadou.
C'est une décision politique qui est basée sur un fond idéologique. Les accords de Paris ont été précédés par 4 années de négociations ardues. Pour nous, les États-Unis sont quand même arrivés à atteindre leurs objectifs stratégiques. Le premier, c'était d'avoir un accord dans lequel tant les pays développés que les pays en développement s'engageaient à réduire leurs émissions de CO2. Ça, ce n'était pas le cas avant, dans le protocole de Kyoto, protocole dans lequel les États-Unis d'ailleurs n'étaient pas membres. C'était assuré que dans le nouvel accord, tous les pays, qu'ils soient développés ou en développement, prennent des engagements de réduction. Non seulement en cela, mais que ces engagements-là de réduction d'émissions aient la même valeur juridique, c'est-à-dire que ce soit juridiquement contraignant pour tout le monde.
On a eu donc les accords de Kyoto, c'était le gouvernement de Bush, les accords de Paris avec le gouvernement Obama. Est-ce que cette rupture peut laisser présager quelque chose d'optimiste ou quelque chose de plutôt négatif?
La réalité, enfin, pour le processus dans son ensemble, je pense que la dynamique qui a été lancée depuis Paris, qui a été maintenue à Marrakech, d'une communauté internationale qui est unanimement liés et unanimement debout contre les changements climatiques. Je pense que cette dynamique-là, d'ailleurs, ces dernières 24 heures, elle est en train de se raffermir, que ce soit, bien sûr, l'Europe, mais même la Chine. Le sentiment est unanime que les changements climatiques sont un problème sérieux qui a besoin d'une réponse globale et que c'est tous ensemble que nous relèverons le défi. Ça, c'est certain. Maintenant, dans la réalité, les États-Unis, c'est quand même le premier pays émetteur historiquement de gaz à effet de serre. Si les États-Unis ne respectent pas leurs engagements de réduction d'émissions, cela va avoir un impact sur l'intégrité environnementale même du système. Mais je pense qu'il faut encore nuancer, puisqu'aux États-Unis, les États, un bon nombre d'États quand même assez importants, comme la Californie, comme New York, comme l'Arizona, Nouveau-Mexique et d'autres qui profitent énormément des secteurs liés aux économies vertes, les entreprises, bien sûr les entreprises technologiques majeures, Google, Facebook, Apple sont mobilisées, même ExxonMobil. Donc je pense que même aux États-Unis, la position qui a été prise par Trump est une position qui n'est pas une position majoritaire.
C'était Seni Nafo, porte-parole de la cause écologique du Mali.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24 heures sur 24.
L'annonce du retrait des États-Unis de l'accord sur le climat a résonné comme une onde de choc à travers le monde et particulièrement en Afrique, continent particulièrement touché par le changement climatique. Nathalie Barge a recueilli la réaction de Zainabou Sagba, présidente de Women Environmental Program, c'est au Burkina Faso.
Beaucoup de tristesse, mais pas étonnant. On voyait bien sûr la menace planer et puis ça s'est concrétisé. Cela donc vient confirmer en tout cas des doutes que nous avions. Et c'est d'autant plus triste parce que nous comptions beaucoup sur les États-Unis et pour l'exemple, mais aussi parce que pour plusieurs raisons, cet accord et le respect des engagements étaient importants surtout pour nos pays et très pauvres, notre pays par exemple, et qui attendons beaucoup de l'adaptation au changement climatique. Avec le Fonds vert pour le climat, nous avions beaucoup d'espoir. On est arrivé à 1,50-50 pour l'adaptation et l'atténuation, ce qui était une première un peu plus satisfaisante que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et voilà qu'un grand émetteur et donc un probable financeur de Fonds vert pour le climat est en train de se retirer de l'accord. Maintenant, il faut lutter pour que les autres ne puissent pas suivre l'exemple également des États-Unis Et donc, c'est le combat qui reste à faire. Et donc, nous essayons, on va se mobiliser, on va lutter, y compris avec des ONG américaines. On est en train de se contacter, de se mobiliser pour pouvoir réagir comme on le peut.
Selon vous, le retrait de cet accord des États-Unis, dans quelle mesure cela va-t-il toucher l'Afrique concrètement?
Ce n'est plus une nouvelle que de dire que nous sommes le continent le plus vulnérable face au changement climatique. Par contre, moins émetteurs, moins responsables. Et il nous faut beaucoup d'argent aujourd'hui pour nous adapter au changement climatique parce qu'il faut des grandes infrastructures pour pouvoir stopper l'eau, pour pouvoir fertiliser nos sols, pour pouvoir aller vers l'énergie propre, les énergies renouvelables. Nous avons besoin de beaucoup de moyens pour pouvoir nous adapter au changement climatique. Et les fonds, qu'ils soient multilatéraux ou en tout cas bilatéraux, en matière de changement climatique sont très importants pour l'Afrique. Donc ce retrait présage vraiment d'un lendemain incertain et en tout cas pas bon pour l'adaptation pour l'Afrique.
C'était Zainabou Segba, présidente de Women Environmental Programme au Burkina Faso. Psychose ce vendredi dans la cité de Niamey-Lenla, à plus de 100 km au nord de Goma, suite à l'attaque d'une position de l'armée congolaise par un groupe de combattants Maïmaï non loin de la grande ville de l'Est. Plusieurs civils se sont enfuis vers l'Ouganda. Notre correspondant au Nord Kivu, Charlie Kasereka, nous fait le point.
C'est aux environs des 6 heures du matin qu'un accrochage entre les Maïmaï et l'armée congolaise a été signalé sur l'axe Rutshuru-Ishasha à Buramba, 5 km de la cité de Niamey-Lima au nord de Goma. Avec des détonations d'armes lourdes, et certains habitants qui étaient déjà dans leur champ pour la récolte et de quelques provisions sont vite rentrés à la maison.
C'est à cause de la famine que nous risquons nos vies en allant au champ dans cette situation de panique. Comment rester avec les enfants à la maison sans rien à manger ? C'est difficile.
La cité, les activités commerciales sont restées fermées et les écoliers perturbés dans leurs examens. Les représentants du gouverneur de la région rassurent Jean-Paul Tsongo.
Alors la situation qui a prévalu ce matin ici à Niamey-Lima a fait qu'il y ait perturbation par rapport à ces activités. Selon moi, il n'y a pas eu trop de pâques par rapport à la situation. Ils ont compris le fait qu'ils vivent dans une contrée qui connaît suffisamment des problèmes. Et juste après, ils ont été rassurés par les chefs de centre comme leurs surveillants. Et à présent, tout se passe bien sans problème.
La société civile, quant à elle, veut que cette fois-ci, les opérations lancées depuis 3 jours par les FARDC soient la fin d'activisme de tous ces groupes armés dans et autour du parc de Virunga. Alphonse Kambale, responsable de la société civile ici à Niamey-Lima.
Qu'il y a eu attendement de tirs de FARDC, des armes lourdes. Alors c'est tout le monde qui a cherché là où s'est faufilé. Il y a panique, il n'y a pas d'activité. Personnellement, je voudrais toujours recommander aux militaires de mener toujours les opérations, d'autant plus que notre population est agricultrice et là où ils cultivent leurs champs, il existe toujours des groupes armés. Lorsqu'ils mènent des opérations, c'est toute activité champêtre qui est stoppée. Alors moi je pense s'ils mènent des opérations, qu'ils en finissent directement.
Jusqu'à présent, le bilan pour ces opérations n'est pas encore donné. Signalons que la 34e région militaire au nord Kivu, à travers l'opération Sokolade, a lancé depuis 3 jours maintenant la traque de tous les groupes armés dans et autour du parc national de Virunga, au sud du lac Édouard. Il s'agit essentiellement des miliciens Maïmaï et les rebelles rwandais FDLR qui avaient déjà installé leur base dans les parcs de Virunga et qui sont pointés du doigt dans plusieurs cas de kidnapping et de demandes de rançon dans cette partie de la province du Nord Kivu. Charlie Kasereka depuis Niamey-Lima pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Et on termine par ce rapport qui fait couler beaucoup d'encre et de bruit ces derniers jours au Burkina Faso. C'est celui de l'Autorité supérieure de contrôle de l'État et de la lutte contre la corruption. Ce rapport publié cette semaine souligne que 31 milliards de francs CFA ont été détournés par les agents publics en 2015 sous la transition. Bagassi Koura a joint à Ouagadougou Dieudonné Zongrana. Il est le directeur de publication du journal Aujourd'hui au Faso.
Il y a eu 28 entités qui ont été investiguées. Il y a eu l'audit des lotissements à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. 11 structures ont été auditées, dont la présidente du Faso et le contrôle de certains comptes de dépôt. Mais tous ces contrôles ont mis à nu des malversations qui s'élèvent, tenez-vous bien, à plus de 31 milliards de francs CFA.
Des malversations de la part des agents publics?
Oui, des agents publics, et c'était sous la transition et après. Oui, des agents publics, des ordonnateurs.
Alors, vous dites sous la transition, c'est-à-dire au moment où il y avait le slogan « Plus rien ne sera comme avant ».
Oui, bien sûr, puisque ça portait sur l'année 2015. Et vous savez que l'année 2015, c'était l'année de la transition. Et au total, il y a 55 dossiers qui pendent en justice. Et donc, c'est pour dire que la SE a vraiment fouillé de fond en comble. Mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est que la SE a recommandé qu'au lieu de chaque fois de constater les faits, je reprends les propos du contrôleur général, qui dit qu'au lieu que l'État contrôle après les dégâts pour n'avoir que ses yeux pour pleurer, il est préférable qu'il fasse le préventif. Qu'on puisse mettre des lois qui préviennent, qui empêchent les gens de voler plutôt que de constater après, parce que ceux qui siphonnent les caisses de l'État, après ils n'ont plus rien à payer, il n'y a rien à saisir, ou bien ils se rendent volontairement insolvables et l'État n'a que ses yeux pour pleurer, pour reprendre le terme du contrôleur général Luc Marius Ibriga.
Et comment ce rapport a été accueilli?
Eh bien, les gens ont exigé quand même que la lumière soit faite sur ces 31 milliards de malversations et que les fauteurs rendent gorge. Mais vous savez, ça c'est mon analyse personnelle, vous savez que toute période de transition est propice, bien sûr, à l'implémentation de valeurs, mais aussi à des dérives, à des malversations, à des vols, à des truanderies. Ce n'est pas propre au Burkina. Vous voyez qu'au Niger aussi, après le départ du pouvoir de la transition qui était mené par Salut Kivo, le pouvoir qui est venu accuser le pouvoir de la transition d'avoir en tout cas dissipé des milliards de francs CFA. Donc il faut peut-être trouver des mécanismes pour prévenir tous ces vols-là.
Et quelle a été la réponse du gouvernement jusque-là, s'il y a eu réponse?
Je pense que le gouvernement a pris le président du Faso a compulsé le document et je pense que il y a déjà même des mesures qui sont prises, il y a déjà des dossiers qui pendent en justice, il y a des procès en vue et nul doute que parmi les auteurs de cette malversation qui porte sur 31 milliards, il y a des gens qui vont répondre puisqu'il y aura le procès des crimes économiques.
C'était Dieudonné Zongrada, directeur de publication du journal Aujourd'hui au Faso.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque vendredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique des Caraïbes. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
I was all alone, was so bad, and there she go. She touched my heart and said, "The best thing I know to go." Hey, was so glad the way she keeps me smiling.
Sur ce beau titre de Peace Square Beautiful qu'on se quitte, en choix de Georges Léonard Sagnon qui a mis en onde cette édition. À la console, Suleiman Tarawale, présentation Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook, également sur notre site internet voafrique.com. Au revoir.
nenye makagi.